9h03, il y a un litige qui concerne l'accès au marché canadien du vin devant l'Organisation mondiale du commerce. C'est l'Australie qui a porté plainte, l'Australie qui exporte beaucoup de vin au Canada et particulièrement au Québec. C'est une plainte qui vise l'accès donné aux producteurs locaux. Et ça aura un impact si c'est prouvé, si l'Australie est choisie comme gagnante par le tribunal de l'Organisation mondiale du commerce, un impact sur les vins québécois notamment. Pour nous en parler, nous recevons Yves Mailloux, qui est président au Club des dégustateurs de grands vins. Monsieur Mailloux, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Bélanger.
Alors, quelle est la plainte de l'Australie exactement? Pourquoi ils sont pas contents?
Eh bien, donc, quand on a des ententes commerciales avec des pays, ce qu'on appelle le libre-échange, il y a un principe qui dit que ça doit être d'égal à égal. Bien sûr, ces négociations-là durent des mois. Des fois, il y a des exclusions pour certains produits, mais on ne rentrera pas dans les détails. En général, un pays ne peut pas favoriser ses produits locaux aux dépens d'un pays étranger si j'ai une entente commerciale avec ce pays-là. Et le développement au cours du temps nous a amené, on voulait favoriser des produits locaux, mais tout ça a commencé en 2015. L'Australie a commencé à faire une plainte au niveau de la Colombie-Britannique qui a fait un peu la même chose. Les produits de vin colombo-britannien étaient rentrés en épicerie, ont déposé une plainte, puis entre-temps, ben, ils ont ajouté l'Ontario, le Québec et aussi, je crois, la Nouvelle-Écosse.
Ouais.
Et depuis le début de tout ça, aussi se sont joints à l'Australie, les États-Unis, l'Union européenne, et ça, c'est plusieurs pays, l'Argentine, le Chili, la Nouvelle-Zélande, pour être aussi entendus auprès de l'Organisme mondial du commerce, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui règle ces différends-là à l'international lorsque il y a des litiges comme ça qui surviennent.
Le nœud du litige, c'est que les vins québécois notamment peuvent être vendus directement dans les 8000 supermarchés de la province. Sauf que la question que les gens se posent, c'est que des vins australiens, il y en a rien qu'en masse dans les épiceries. Alors pourquoi il y a un problème exactement?
Encore une fois, c'est la question du principe de l'égalité. C'est pas parce que l'Australie, par exemple, vend beaucoup plus de vin au Québec que les vignerons qui peut-être en écoulent, ont produit à peine plus de 2 millions de bouteilles au Québec. La moitié sont vendues dans les vignobles, un peu à la SAQ, puis il en reste peut-être 400 000 vendus dans les épiceries. C'est vrai que le volume est supérieur, mais c'est la question du principe que l'avantage que les vignerons du Québec ont, il est double. Dans les épiceries, on ne peut vendre que du vin importé en vrac. Vous allez me dire, dans ce, il y a du vin de l'Australie. C'est vrai, mais quand même. Et les vignerons du Québec, pour les vins vendus dans les épiceries, ne passent pas par la SAQ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la grosse majoration au passage, donc ça leur donne plus d'argent à la bouteille. Alors, vous voyez qu'il y a comme un petit déséquilibre ici, et quand ils ont fait ça, la loi 88, dès le départ, j'ai vu que ça pourrait mener à un problème comme ça. L'avenir dira qu'est-ce qui va arriver, mais je pense qu'il va y avoir des adaptations au Canada, pas seulement au Québec, là, mais dans les d'autres provinces qui font ça pour se conformer aux règles internationales de ce côté-là. Vous savez, tant qu'on est entre nous au Canada, puis on n'a pas d'entente entre les pays, on peut faire n'importe quoi, mais à partir du moment où on fait du commerce avec d'autres pays, puis qu'on est pas mal différent des autres, mais c'est là un peu qu'on se fait un petit peu taper sur les doigts puis se dire, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire du commerce un peu comme tout le monde dans le monde entier, quoi.
Et si l'Organisation mondiale du commerce tranche en faveur de l'Australie et des autres pays qui ont joint la cause australienne, quelles seraient les conséquences pour l'industrie du vin au Canada et particulièrement ici au Québec?
C'est une très bonne question. Voyez-vous, les gouvernements, le Canada, c'est un pays un petit peu spécial de par sa constitution. Je regardais récemment, vous donner un aperçu, un tableau fait par l'American Association of Wine Economists qui donnait l'âge légal pour acheter de l'alcool dans le monde. Ça va entre 16 et 21 ans. Et le Canada est le seul pays où il y a une petite astérix à côté. Pourquoi? parce qu'on marque 19 ans, mais la petite astérique nous dit que c'est 18 ans en Alberta, Manitoba, au Québec. Ouais. Donc, déjà là, au départ, vous donnez une idée, on est le seul pays dans le monde où l'âge légal pour acheter de l'alcool, ça varie dépendamment de la région.
Ouais.
Oui. Et les provinces se sont bâties un peu comme des chasses gardées, avec des monopoles par province. C'est des barrières invisibles. C'est plus facile pour un vignoble canadien d'exporter son vin vers les États-Unis, l'Argentine ou la France que dans la province à côté.
Ouais.
Alors déjà là, il y a des petites complications légales, des barrières qu'on s'est mis entre nous qu'il faudrait régler. Mais au niveau international, pour revenir un peu plus près à votre question, je pense que les gouvernements vont devoir faire un peu le ménage dans ça. Si on prend le cas des vignerons du Québec, eh bien, ce que les autres pays font, ils ne font pas des mesures comme ça, comme on a fait pour favoriser leurs produits locaux. C'est plus un peu par le biais de subventions à l'interne dans leur pays. Par exemple, si un producteur du Chili vend un vin à la SAQ 5 $, la SAQ va le vendre 15-16. Et c'est pareil pour tous les pays du monde entier. Tous les vins qu'on vend à la SAQ 5 se vendent le même prix. Il faut que ça soit juste. Donc, on ne peut pas dire on va faire une majoration inférieure pour les produits québécois. Par contre, le producteur chilien a reçu de son gouvernement toutes sortes de subventions pour l'achat d'équipements, pour la main-d'œuvre, pour des subventions à l'exportation, surtout. Ce qui fait qu'il y a peut-être eu 9 $ au total, en plus de 5 $ qu'il va recevoir de la SAQ. Et son produit lui coûte peut-être 7-8 $ à faire. Donc, il réussit à dégager un profit. Donc, je pense que le gouvernement devra faire un peu la même chose. Les autres diront rien parce qu'ils font tous pareil. Donc, des subventions directement aux producteurs pour que ceux-ci puissent vendre à peu près le même prix que tout le monde, par exemple, à la SAQ, et faire dégager un profit. Et ce qui a trait aux épiceries, eh bien, si on veut que les produits du Québec restent dans l'épicerie, il faudra ouvrir le marché, je crois, aussi aux autres produits du monde entier pour que ceux-ci pourraient vendre dans les épiceries. Et les épiciers ne demandent que ça. Et présentement, ils sont coincés un peu uniquement avec du vin en vrac. Je ne dis pas que c'est du vin de moindre qualité, mais il y a moins de choix, si on peut dire. Et si on arrête tous les produits du monde entier qu'on peut avoir les épiciers feraient leur choix, on aurait à ce moment-là un choix plus vaste. Et là, tout le monde serait sur le même pied. C'est sûr, c'est plus difficile. Il faut compétitionner avec le monde entier. Mais il faut suivre les règles quand même internationalement. Encore une fois, c'est dans quelques mois qu'on sera
Parce que ça va prendre un certain temps avant que... Oui, ça va prendre un certain temps.
Mais on peut se préparer un peu en attendant, je crois, quand même, pas attendre que... Quand on sait qu'il y a du tonnerre et des éclairs, mais on se prépare à se mettre à l'abri. Hein?
Parlez-nous de l'industrie du vin au Québec. C'est une industrie qui est en croissance. Vous, qui êtes un dégustateur, président du Club des dégustateurs de grands vins, M. Mailloux, parlez-nous de l'amélioration des produits au Québec au cours des dernières années.
Oui. Alors, on va dire que depuis, c'est une industrie jeune qui a commencé dans les années 80 et on avait des défis qui étaient le climat, parce que la période végétative est courte et les hivers sont très froids.
On est pas mal au courant de ça, ouais.
Oui, hein? Et la plupart des cépages que les gens connaissent, tel chardonnay et tout ça, bon, on a essayé au début, mais ça résistait pas à l'hiver, donc on a pris des cépages hybrides qui sont plus résistants au froid, mais que ça a pris du temps à connaître les subtilités pour en tirer des bons vins. Alors, on est rendu là. Et aussi, on a développé avec des toiles géotextiles. Au lieu de mettre de la terre, on met ces toiles-là avant le début de l'hiver. Et les cépages comme Pinot Noir, Chardonnay résistent maintenant. Donc, on va commencer à avoir des produits avec ces cépages très qualitatifs. L'expertise s'est développée. Certains vignobles ont grossi, ce qui leur permet d'avoir des œnologues, des experts qui viennent les conseiller. Et tout ça donne des produits qui, si dégustés à l'aveugle, la plupart des gens ne pourraient jamais penser que ça vient du Québec. Et toujours avec notre petite personnalité, c'est ça qui est intéressant. Si vous faites déguster un vin de Pinot Gris, mais vous ne voulez pas que ça goûte la même chose exactement qu'en France, il faut que ce soit que la notion de terroir s'exprime. Alors, on arrive là, tranquillement. Alors, beaucoup de gens ont encore des préjugés, mais la meilleure chose, c'est d'y goûter, de suivre des recommandations de chroniqueurs comme moi ou d'autres, qui vous disent, ben tel produit, ça vaut la peine, le prix est bon et la qualité est là. Et Je pense que d'ici 10-15 ans, on va être surpris de voir où on va être rendu avec les vins du Québec.
Et le défi, c'est de faire connaître les produits, c'est de les distribuer, d'où l'idée de pouvoir oui. donner accès aux épiceries pour les vins québécois. Parce qu'au niveau des parts de marché, M. Mailloux, les vins québécois, c'est pas grand-chose présentement au Québec face aux géants, aux producteurs géants comme la France, même l'Australie qui produit beaucoup pour les distributeurs québécois.
Tout à fait. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Plusieurs vignobles sont petits. On ne peut pas faire des économies d'échelle, mais il faut les appeler à grandir. Il y a eu aussi une certaine réticence, il faut le dire, de la part de la SAQ pour les faire entrer parce que c'était moins payant que d'autres pays.
Oui,
de gros producteurs qui, eux, peuvent donner des budgets promotionnels en plus du prix d'achat pour pousser les produits. Vous voyez qu'on a un système un peu comme ça qui date de 1921 qu'on a plus ou moins adapté. Eh bien, ça donne un système un peu bancal. Puis on essaye de trouver d'autres méthodes pour aider nos vignerons. Et des fois, on va peut-être un peu trop vite. On ne trouve pas la bonne manière et on tombe un peu dans un piège, dans un guépier. Alors, je pense qu'il va falloir adapter, je ne dis pas tout éliminer, mais adapter notre façon que l'alcool est commercialisé un petit peu au Québec pour rendre ça un peu moins archaïque, un peu plus moderne, quoi, et faire en sorte que tout le monde y trouve son compte.
En terminant, M. Mailloux, si vous aviez à essayer de prédire ce que l'OMC va faire, quelle décision, de quel côté il va pencher, du côté du Canada ou du côté de l'Australie?
Eh bien, si on regarde le côté légal et tout ça, c'est triste à dire, mais je dirais qu'il y aura au moins 60-70% des chances que ça penche du côté australien et qu'on demande au Canada de réviser un petit peu la manière que les produits locaux sont favorisés par rapport aux produits étrangers pour que tout le monde soit sur le même pied.
Yves Mailloux est président du Club des dégustateurs de grands vins. Il nous parlait de ce litige entre l'Australie et le Canada par rapport au marché du vin canadien. Merci beaucoup, M. Mailloux, d'avoir été là.
Un plaisir, M. Bélanger.